va passer à un autre hashtag. Balance ton porc, MeToo et leurs conséquences judiciaires à 7h42 sur France Culture. Mardi dernier, Emmanuel Macron a mis en garde contre une forme de république du soupçon à propos des accusations d'agression sexuelle contre Nicolas Hulot et Gérald Darmanin lors d'une rencontre avec l'association de la presse présidentielle. La libération de la parole sur les violences sexuelles contre lesquelles lutte contre le gouvernement actuel aurait-elle réellement créé un climat du soupçon? Et surtout, comment passe-t-on à l'action judiciaire? Comment passe-t-on à la séquence judiciaire? Pour en parler, je suis en compagnie d'une avocate, Claire Doublier. Bonjour.
Bonjour.
Et je vais tout d'abord vous faire entendre, Maître Doublier, une militante et une femme politique, Caroline de Haas, au sujet des viols et d'une complicité, selon elle, de l'État français avec ses crimes.
C'est pas un problème individuel, c'est un problème de masse. On est dans une mécompréhension, méconnaissance de l'ampleur des violences. Et notre pays, moi je considère que la France, l'État français, est complice de fait de ces crimes de masse que sont les viols. Il est complice parce qu'on sait exactement comment il faudrait faire pour les arrêter et on ne le fait pas. On ne met pas les moyens sur la table.
Alors voilà, c'est cela en fait qui m'intéresse, Claire Doublier. Vous êtes avocate pénaliste, vous suivez ce type de procédure. Et ce que l'on aimerait tout d'abord comprendre, c'est pourquoi, d'après les chiffres, alors là aussi il y a un débat sur les chiffres, mais on a bien compris qu'il y avait des difficultés à porter plainte, des difficultés à transformer ces plaintes en preuves de culpabilité. Expliquez-nous ce qui pêche dans les procédures judiciaires.
D'abord, les chiffres, en ce qui me concerne, je ne les connais pas nécessairement. Ensuite, la difficulté, c'est une difficulté de preuve. On est dans un système où, lorsque quelqu'un est accusé, pour être déclaré coupable, il faut nécessairement qu'un certain nombre de preuves soient réunies à son endroit. Dans le cadre d'affaires qui sont en rapport avec l'intime, il est évident que les preuves sont parfois difficiles à rapporter. Mais c'est la règle du jeu, et c'est une règle du jeu qui est incontournable. Parce que, à défaut, on est dans un système où c'est l'arbitraire, et où on va effectivement condamner des gens au visa d'une parole, laquelle est extrêmement subjective, et laquelle n'est pas nécessairement porteuse de vérité.
Alors, évidemment, personne ne va défendre l'arbitraire, mais on entend parler, les néophytes comme moi, entendent parler d'intime conviction. Est-ce qu'il y a un moment où on ne peut pas avoir une intime conviction, que qu'il s'agisse d'ailleurs d'un crime de viol ou d'un autre crime, Claire Doublier?
Alors, l'intime conviction, c'est effectivement quelque chose qui a une place tout à fait colossale dans l'institution judiciaire française. Et l'intime conviction, elle est aussi le fait de l'air du temps. Ça signifie aujourd'hui que, à la fois, on a un propos qui consiste à dire que l'État serait complice, et en même temps, au quotidien, ce que je constate, c'est que lorsque la parole arrive sur le terrain judiciaire, on est dans une situation où le plaignant ou la plaignante a une parole qui, a priori, est la vérité. Et la difficulté que la défense va avoir, ça va précisément être de contextualiser cette parole, de la relativiser et d'arriver à la remettre en question. On est aujourd'hui, paradoxalement, dans un système où la parole de la personne qui se présente comme la victime est un peu comme la parole de l'enfant à l'époque de l'affaire Outreau.
Oui, on voit justement à quoi vous faites référence, mais on entend dire, et là aussi, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, avocate Claire Doublier, mais on entend dire que finalement, alors qu'au début de cette vague de MeToo et de l'autre hashtag Balance ton porc, alors qu'on avait très peur de fausses accusations, on entend dire qu'il y a finalement assez peu de fausses accusations de viol et que les victimes, les personnes qui se présentent comme victimes, sont souvent de vraies victimes. Votre expérience d'avocate à ce sujet ?
Je pense que c'est très très compliqué de venir affirmer péremptoirement que, au travers de cette parole qui se libéralise et qui donc coule à flot et dans une situation qui est difficilement gérable, il est extrêmement compliqué de venir dire que la parole est vraie. Moi, j'en sais rien. Moi, je sais que la parole est vraie à partir du moment où on m'a fait la démonstration de ce que, judiciairement, elle était vraie. Et j'ai un peu le sentiment que, au travers de tous les réseaux sociaux, ce qui s'exprime, c'est une forme de colère, que ce qui s'exprime, c'est la manifestation d'un système patriarcal pour lequel on a envie que les choses évoluent. Maintenant, est-ce que ce sont des faits constitués ? Majoritairement, je n'en sais rien.
Est-ce que ça complique votre travail, les réseaux sociaux, ou est-ce qu'on réussit à être complètement aveugle, finalement, à ce qui peut se dérouler sur Twitter, sur Facebook, lorsqu'on est avocat, lorsqu'on est magistrat ?
Alors, en ce qui me concerne, mais c'est une réponse tout à fait personnelle, j'ai réglé le problème depuis longtemps, puisque je ne suis ni sur Facebook, ni sur Twitter. J'ai tendance à penser que les magistrats font le maximum pour se préserver de l'influence des réseaux sociaux. Néanmoins, les réseaux sociaux ont un impact, et l'impact aujourd'hui, c'est que la parole de l'intime occupe tout l'espace public, et que ça, c'est un vrai problème, parce qu'on est en train de tous perdre nos repères, y compris les avocats.
Pourquoi ?
On a régulièrement l'intervention d'avocats sur des sujets divers et variés, qui ne sont pas les conseils des intervenants, qui se permettent de fournir leur intime conviction. Tout ça n'a pas d'intérêt social. C'est une parole qui est vide, qui occupe l'espace et qui n'est pas constructive.
Et ça, c'est une vraie transformation ? C'est-à-dire que vous avez vraiment l'impression qu'il y a aujourd'hui une mutation liée à leur pas seulement donc aux affaires en cours autour donc de crimes sexuels, mais plus généralement une mutation de la justice.
Je ne sais pas s'il y a une mutation de l'institution judiciaire, mais je pense que tout ce qui est autour est impacté par les réseaux sociaux. Et effectivement, et la parole se libère du côté des plaignants, et la parole se libère du côté des professionnels. Alors, ce qu'on peut constater, c'est que du côté de l'institution judiciaire, la parole reste confinée, et c'est plutôt d'ailleurs une bonne chose, mais que sur l'univers des auxiliaires judiciaires, la parole se déverse de plus en plus.
On écoute justement Laurence Rossignol, qui, elle, considère que la parole des victimes n'a pas été suffisamment entendue. Laurence Rossignol est sénatrice PS de l'Oise et c'est l'ancienne ministre des Droits des Femmes.
Je suis là parce que je suis très choquée, très inquiète, que dans deux affaires consécutives qui concernent un gouvernement, donc le pouvoir, deux ministres mis en cause sur des affaires de viol, certes pour des faits très antérieurs à leur entrée au gouvernement. Dans les deux cas, le choix qui est fait par le gouvernement, le choix qui est fait par la majorité parlementaire, c'est de dire la victime ment. Parce que tous ces premiers ministres, ministres, députés, qui défilent sur les plateaux pour dire, ils ont l'un ou l'autre, que ce soit Gérald Darmanin ou Nicolas Hulot, toute notre confiance. Ça veut dire que s'ils ont leur confiance, c'est parce que les faits qui leur sont reprochés sont faux. Parce que si les faits étaient vrais, si c'était vrai que l'un et l'autre aient largement dépassé les limites du consentement, j'imagine qu'ils n'auraient plus la confiance de leurs collègues et de leurs pairs. Donc ça veut dire que le pouvoir politique s'est arrogé dans ces deux affaires le pouvoir de dire « la victime ment ».
Votre réaction d'avocate, Claire Doublier ?
Je suis évidemment absolument pas d'accord avec ce positionnement. Il me paraît nécessaire et évident qu'on ne vienne pas jeter en pâture deux personnes qui font l'objet d'une parole qui doit être soumise à un débat judiciaire en l'état. Vous avez une situation qui est très simple, vous avez une personne qui accuse, vous avez en face une personne qui dit c'est faux, et personne dans l'univers médiatique ou social n'est là pour dire c'est vrai, c'est faux. C'est pas de notre registre, c'est du registre de l'institution judiciaire. Partant de là, on a un principe de présomption d'innocence, on transmet la procédure à l'institution judiciaire qui règle le problème. Mais en attendant, il est évident que la présomption d'innocence doit jouer, et elle doit jouer à plein.
Et le droit à l'oubli, parce que cela fait partie également des choses qui ont été évoquées, notamment donc dans le cas de Nicolas Hulot. Est-ce qu'il est légitime, selon vous, d'exhumer des plaintes? Alors, des plaintes qui ont été classées en raison de la prescription, dans le cas de Nicolas Hulot. Sur le plan donc juridique, clair d'oublier, qu'en pensez-vous?
Alors, moi je pense que le droit à l'oubli, c'est quelque chose qui est fondamental, qui fait partie de notre mode de fonctionnement, de notre mode de pensée. On est en train de revenir dessus puisque diverses dispositions légales sont en train d'augmenter les délais avant que la prescription ne soit acquise. Mais si on prend par exemple l'affaire Hulot, il est évident que s'il y a une chose intéressante dans cette affaire, c'est pourquoi une femme va déposer plainte précisément alors qu'elle sait que les faits qu'elle va dénoncer sont prescrits. Parce que ça ferme le débat et ça empêche tout simplement quelqu'un de se défendre.
Est-ce qu'il ne peut pas se défendre en diffamation ?
Alors, il peut évidemment faire une procédure en diffamation ou en dénonciation calomnieuse.
Est-ce que ça, c'est pas une manière de contourner la prescription ?
C'est peut-être une manière de contourner la prescription, mais il y a une autre manière de contourner la prescription. On a une disposition légale qui fait que quand une peine est amnistiée, on n'a pas le droit d'en parler. Et si on en parle, on commet une infraction.
Classé sans suite, est-ce que c'est amnistié ?
Pas du tout, mais on pourrait considérer que dès l'instant où un fait est prescrit, on n'a plus à en faire état. Ça pourrait être une façon de rendre réel ce principe de prescription.
Mais aujourd'hui, ça n'est pas ce que dit la loi. Le droit à l'oubli, précisément, maître d'oublier, qu'est-ce qu'il stipule aujourd'hui ?
Le droit à l'oubli, il a une incidence sur la procédure judiciaire. Il dit que dès l'instant où un fait est prescrit, on ne peut plus porter un regard judiciaire. Mais il n'empêche pas quelqu'un d'évoquer la matérialité et la réalité des faits qui sont couverts par la prescription.
Ce que vous êtes en train de dire, c'est que finalement, il n'influe pas du tout sur le regard médiatique, sur le discours médiatique. C'est-à-dire qu'un journaliste a tout à fait le droit d'exhumer une vieille affaire pour laquelle vous avez été innocenté, ou même qui n'a pas été jugée, puisqu'elle était prescrite dans le cas de Nicolas Hulot.
Alors, un journaliste a évidemment le droit. Mais la difficulté à laquelle il va être confronté, c'est que le journaliste, il est là aussi pour travailler et pour étayer son propos. Et comment étayer un propos à partir du moment où il n'a pas d'éléments qui permettent de se référer à une instruction autour de ce propos ? En d'autres termes, quand un journaliste vient se faire l'écho d'un fait qui est prescrit, il vient simplement mettre sur la place publique une affirmation, laquelle est totalement invérifiable.
Est-ce que vous réussissez à comprendre malgré tout le malaise, là aussi, de ceux qui ne sont pas juristes face à une accusation qui n'a pas été jugée puisque les faits étaient prescrits ? Est-ce que pour vous, il y a une distinction entre la prescription et l'innocence ? Et en somme, est-ce que il ne faudrait pas que ce type d'affaires, qui sont aujourd'hui des affaires médiatiques, soient rejugé du point de vue de la diffamation, puisque c'est, semble-t-il, ce que veut faire Nicolas Hulot. Il a dit qu'il porterait plainte pour diffamation contre ces deux articles. Est-ce que ça, par exemple, ça pourrait constituer une solution ?
Oui, ça pourrait effectivement constituer une solution dans la mesure où, dans le cadre d'une procédure en diffamation, on va effectivement s'intéresser à ce qui s'est passé. Maintenant, ça pose un problème social beaucoup plus général. Est-ce qu'il est intéressant de s'intéresser à des faits qui se seraient déroulés il y a extrêmement longtemps ? Quel est l'intérêt social que ça peut avoir ? Est-ce qu'on n'a pas, des préoccupations bien plus conséquentes que porter son attention sur une relation intime remontant à Mathusalem.
Mais c'est ça aussi l'une des conséquences de cette libération de la pouvoir, de la libération pardon, de la parole, c'est qu'il y a aujourd'hui énormément d'articles, de reportages faits sur ce que vous appelez des faits intimes, des choses qui relèvent effectivement de relations effectives ou non d'ailleurs entre deux personnes. Lorsqu'on examine par exemple une autre affaire qui a été très largement médiatisée, l'affaire Tariq Ramadan, alors vous n'êtes pas l'avocat de Tariq Ramadan, il vous est donc difficile de connaître les différentes spécificités du dossier, mais est-ce que c'est facile par exemple dans ce cas de figure d'avoir des certitudes, d'avoir une manifestation de la vérité?
Ben, je pense que la publicisation rend les choses extrêmement compliquées. Encore une fois, j'ai pas d'avis sur la question, mais le seul avis que je peux avoir, c'est de ne pas me positionner sur le terrain du vrai ou du faux. C'est pas ma fonction aujourd'hui, n'ayant pas accès à la procédure. Je pense que la publicité brouille toutes les cartes et brouille tous les repères.
Pourquoi ?
Pourquoi, je ne sais pas, mais c'est un constat que je suis obligée de faire aujourd'hui. La publicité, elle signifie que tout le monde va s'investir dans une affirmation. Tout le monde va donner son point de vue. Moi, je pense que...
Bon, mais ça, a priori, ça n'influe pas sur la justice si vous dites que l'institution judiciaire, elle, n'est finalement pas bousculée par cette situation spécifique de la société.
Alors, c'est vrai et c'est faux. Parce qu'à force de marteler des affirmations, elles finissent par prendre une forme de réalité. La médiatisation, elle est évidemment compliquée à gérer pour toutes les parties et essentiellement pour celui qui est accusé.
Et là, dans ces conditions, que peut faire notamment la défense ?
La défense, je pense qu'elle a intérêt à se concentrer sur le terrain judiciaire. Parce que le terrain judiciaire, du fait de l'application des dispositions légales, est infiniment plus protecteur que le terrain médiatique.
Claire Doublier, vous êtes avocate. On vous retrouve en seconde partie aux environs de 8h20 en compagnie du journaliste Stéphane Durand-Soufflant, qui est chroniqueur judiciaire au Figaro et qui va nous apporter, lui, son regard de journaliste sur ces affaires judiciaires. Au début donc de ce qui est sur France Culture, une journée consacrée aux relations entre sexe et pouvoir. Cela se déroulera dans les différentes émissions de France Culture, un thème d'actualité. Et ce matin, dans les matins, on discutera donc de la question spécifiquement judiciaire.